Alors, aujourd'hui, nous terminons notre série sur l'évangile de Matthieu. Bon, sauf si Jean-Serge décide la semaine prochaine de continuer. Mais à partir d'aujourd'hui, les thèmes des messages sont libres. Donc, on va essayer de clôturer notre série sur l'évangile de Matthieu. Et c'est vrai que nous ne sommes pas tout à fait à la fin du livre, mais nous sommes arrivés au point jusqu'avant sa mort. Ce que nous avons vu à Pâques. Et en fait, ici, au chapitre 25, Jésus parle, en fait, de son retour. Donc, nous sommes bien dans l'optique de la fin des choses. Et nous terminons, donc, sur ce thème de l'attente après la résurrection. Comment faut-il vivre en attendant le retour du Christ, le retour du roi? Au chapitre 25 et 24 et 25, Jésus raconte plusieurs paraboles et plusieurs récits qui évoquent certains aspects de cette question. Comment vivre dans l'attente? Et donc d'abord, juste un mot sur les paraboles de Jésus. Quand on lit une parabole, il faut faire attention à ne pas pousser les sens des différentes illustrations trop loin. Et pour bien comprendre ce que la parole veut dire vraiment, c'est important de la lire en relation avec le reste de la Bible. Sinon, on peut tirer des conclusions bizarres de l'histoire. Jésus parle, par exemple, dans une parabole, du fait qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Alors, ce n'est pas bien évidemment un commentaire sur son caractère, mais sur la façon dont il va revenir. C'est-à-dire, on ne va pas savoir d'avance. Il va revenir soudainement. Et si cela n'était pas évident en lisant la parabole, nous le saurions au moins parce que Jésus nous dit ailleurs, par exemple, qu'à la différence des voleurs, il est là pour nous protéger, comme un berger. Et c'est les voleurs qui viennent pour nous détruire. Et donc, la parabole que nous allons lire aujourd'hui est pareille, dans le sens qu'il peut y avoir certains aspects qui sont difficiles à comprendre. Mais à la lumière de la Bible entière, le sens sera clair. Et il est également important, je trouve, de noter le contexte de la parabole. Ici, en Matthieu 25, Jésus arrive à la fin de son ministère. Et c'est tôt dans la semaine de Pâques. C'est lundi ou mardi avant sa crucifixion, et il parle beaucoup de son départ et de ce qui va se passer après. Il répond en fait à une question qui était posée au chapitre précédent, à cette parabole. Cette parabole vient après d'autres qui répondent à cette même question. Et la question était, à quoi ressemblera ton royaume lorsqu'il arrive pleinement? À quoi ressemblera le retour de Jésus? C'est ça la question. Et par ces paraboles, Jésus a enseigné clairement qu'en attendant, il faut être prêt à chaque instant. Prêt à chaque instant pour son retour. Mais qu'il ne faut pas être préoccupé non plus par la date exacte, car on ne peut pas savoir. Et au lieu de se focaliser sur la date, il faut se focaliser sur la mission que Jésus nous donne entre-temps. Nous allons lire donc versets 14 au 30, chapitre 25, versets 14 au 30. Ce sera, en effet, pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit prendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, 5 sacs d'argent, et en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bon, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est un peu sombre. Alors, on va voir d'abord en général le sens de cette parabole, et puis on regardera 3 points en particulier. Et on va voir que ce n'est pas aussi décourageant que tout ça. D'abord, bon, on verra les dons de Dieu et notre réponse, la tentation à ne pas répondre, et puis les récompenses pour la fidélité. D'abord, la signification générale de cette parabole. Ce qui est évident dans son contexte, c'est que Jésus est le maître qui part, il va bientôt mourir, et puis après sa résurrection, il va monter au Père. Pendant son absence, il va confier à ses serviteurs, nous, ses disciples, une tâche, une mission. Et à son retour, il y aura un jugement. C'est le sens global de la parabole. Et du coup, la question pour nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Jésus veut nous dire par rapport à notre vie maintenant, pendant son absence, en attendant son retour? Comment devrions-nous vivre en attendant le retour de notre roi? Déjà, il faut s'attendre à ce qu'il revienne. C'est la base. Il y en a qui vivent comme si Jésus ne revenait même pas. Ils reviennent. Ou bien vous allez vers lui d'une façon ou autre, mais on va rencontrer Jésus tôt ou tard. Mais à quoi ressemble la vie d'un disciple qui attend le retour de son roi? C'est ça la question. La première chose à noter, ce qui a deux parties en fait, c'est que le maître donne quelque chose aux serviteurs. Et il leur confie une tâche, une mission. L'implication pour nous est que nous sommes appelés à utiliser ce que Dieu nous a donné pour accomplir sa mission. Non pas la nôtre, mais sa mission. Et en ce qui concerne la mission, c'est quoi? Si Jésus ne l'explique pas ici, ce que c'est exactement, c'est en lisant tout le livre de Matthieu et les autres évangiles et toute la Bible que finalement, on le comprendra. Et une façon de décrire cette mission, et ce que nous avons vu déjà dans cet évangile, c'est que notre mission est de faire répandre le royaume de Dieu sur terre, le royaume de notre roi. Nous sommes ses ambassadeurs. D'abord, nous faisons répandre le royaume de Dieu en nous-mêmes, en invitant Jésus à régner dans notre cœur, et puis autour de nous. Jésus résume ça quand il dit, par exemple, que le plus grand commandement est d'aimer ton Dieu Et le deuxième est d'aimer ton prochain. C'est notre mission pendant son absence. Et à la fin de cet évangile, il la décrira de façon plus concrète lorsqu'il nous dit d'aller faire des disciples de toutes les nations. À la base, la mission de chaque disciple, de chaque croyant, vous voyez, la mission de chaque croyant est de contribuer à la naissance d'autres disciples, d'autres personnes qui vont décider de mettre leur foi en Christ. Et dans la parabole, les serviteurs étaient censés faire fructifier l'argent du maître afin que sa fortune s'augmente. Nous, les disciples, sommes censés faire fructifier ce que Jésus nous confie afin que le royaume de Dieu s'enrichisse avec de plus en plus de disciples. C'est ça la base. Et alors, je dis pendant son absence, mais soyons clairs, comme Jean-Serge a dit il y a quelques mois, le « aller » est en fait allant avec Jésus pour faire les disciples, parce que Jésus est toujours avec nous par son esprit. Mais comme le roi qui part dans cette parabole, il n'est pas avec nous physiquement. Et il nous confie cette mission pendant son absence physique de ce monde. Alors, pour accomplir cette tâche, qu'est-ce qu'il nous donne? Quels sont ces sacs d'argent dans cette parabole? On aurait pu souhaiter qu'ils soient de vrais sacs d'argent. Mais ce n'est pas comme ça qu'une parabole marche. Et on a bien vu il y a quelques semaines, ce n'est pas ça non plus la promesse de Dieu pour notre vie, que nous recevons des sacs d'argent. Et on pourrait aussi penser tout de suite que ces sacs d'argent sont nos talents, comme on lit dans les anciennes traductions en fait, nos capacités personnelles. Mais en fait, dans cette parabole, ces sacs d'argent sont tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'il nous donne. Ce n'est pas juste nos talents et nos capacités. C'est pour ça qu'ils ont changé la traduction. Oui, il nous donne nos talents dans le sens de nos capacités. Mais c'est aussi lui qui nous donne tout ce que nous avons. Nos ressources financières ou autres. Nos familles, nos amis, les opportunités que nous avons dans la vie. Que ce soit dans la vie en général ou particulièrement dans notre service dans l'Église. C'est Dieu qui ouvre la porte pour que nous puissions partager son amour avec telle ou telle personne. C'est lui qui nous met dans telle ou telle situation. C'est lui qui nous donne le souffle de vie même. Chaque souffle est un don de Dieu. Et il nous demande de le faire fructifier. C'est lui qui nous donne même la foi que nous avons pour le suivre. Ça vient de lui. Jésus nous donne toutes ces choses. Ce sont les sacs d'argent que nous avons. Et c'est à nous de les utiliser. C'est à nous de reconnaître le potentiel de chaque instant de notre vie et d'en profiter pour lui, pour sa gloire. C'est à nous de nous réveiller et regarder tout ce que Dieu nous a donné. Alors, quand on regarde même juste un peu la Coupe du Monde, l'une des choses qu'on remarque souvent avec énorme frustration, c'est le nombre de fois qu'un joueur rate une occasion pour marquer un but. On crie, « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et peut-être qu'il n'était pas au bon endroit, au bon moment. Peut-être qu'il ne se rendait pas compte que c'était le moment de tirer. Parce qu'il ne voyait pas que la cage était ouverte, comme un grand trou devant lui. Peut-être que c'était juste la mauvaise chance. C'est facile de rater une occasion, et aucun joueur est parfait. Mais le pire, c'est qu'il y a des joueurs dans certains matchs qui ratent occasion après occasion. Et là, je nomme personne. Mais on a l'impression qu'ils se sont endormis sur le terrain. C'est l'image que Jésus utilise dans la parabole au début de ce chapitre, en fait. Des gens qui ratent l'occasion parce qu'ils s'endorment pendant l'attente. Ne restons pas endormis. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens 5. Réveille-toi. Dieu nous a donné tellement d'occasions pour vivre son règne sur terre. Il faut essayer à chaque instant de reconnaître comment nous pouvons utiliser ce qu'il nous a donné pour sa gloire et pour le bien de son monde qu'il aime tellement. Et parfois, ça va impliquer un risque. En faisant travailler l'argent qu'ils ont reçu, les serviteurs faisaient face à certains risques. Ils auraient pu, en principe, perdre l'argent. Et c'est justement la raison que le troisième donne de n'avoir rien fait. Il ne voulait même pas, selon lui, le confier au banquier, ce qui aurait été une option moins intéressante, mais au moins plus sûre. Prendre ce que Dieu nous donne et le mettre en œuvre entraîne des risques. Nous n'allons pas toujours réussir. Ce n'est pas chaque tir qui va marquer un but. Ce n'est pas tout le monde qui va vouloir entendre parler de Jésus. Ce n'est pas chaque message qui va toucher tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter l'amour que nous voulons partager. Ce n'est pas chaque projet qui va aboutir comme nous l'aurions voulu. Mais comme nous avons vu lorsque Jésus a envoyé les disciples pour la première fois, ce n'est pas à nous d'assurer les résultats. C'est à Jésus. C'est à nous d'être fidèles. Fidèles avec ce qu'il nous a donné. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelles sont les ressources, les capacités, les situations que Dieu a mises dans ta vie que tu peux utiliser pour sa mission, pour sa gloire? C'est ça la question qu'il faut se poser maintenant. Quels sont les dons, les cercles d'argent dans ta vie? Dieu t'a donné quelque chose, mais c'est quoi? C'est la grande question que cette parabole nous pose. Alors, il faut reconnaître aussi que la réponse ne sera pas la même pour nous tous. Chacun des trois serviteurs dans cette parabole a reçu un montant différent. Chacun a reçu quelque chose. Et il faut dire que c'était beaucoup. Ces sacs d'argent, ça valait très probablement chaque sac vers 100 000 euros, à peu près. Donc chacun a reçu beaucoup. Mais ils n'ont pas tous reçu le même montant. C'est ce que nous voyons dans tous les passages qui évoquent les dons spirituels. Par exemple, Romains 12, 4. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et ça vaut également pour les autres aspects de notre vie, pas juste nos dons spirituels. Ce que nous l'avons par la grâce de Dieu. Et la question n'est pas pourquoi. Pourquoi ai-je ça? Pourquoi ne l'ai-je pas ça? La question est simplement, que dois-je faire avec pour Dieu? Même si ça implique un risque, même si j'ai peur d'échouer. Je pense que nous avons tous peur d'échouer d'une façon ou autre. Mais même si j'ai peur, même si j'ai l'impression d'avoir reçu moins que mon frère ou ma sœur, Jésus m'a confié quelque chose que je peux utiliser pour lui ou je peux creuser un trou et la mettre dedans. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je dois oser mettre ce qu'il m'a donné à l'œuvre pour lui, comme Paul nous dit en Colossiens 3. Jérémie l'a lu déjà ce matin, une partie de ce chapitre, Colossiens 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Et puis, verset 25, c'est important. « Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Comme cette parabole, Colossiens 3 parle d'une récompense. Et on va y arriver. Mais d'abord, il faut quand même regarder le troisième serviteur, celui qui n'aura pas de récompense. Parce que c'est un avertissement important. C'est une partie troublante de cette parabole parce que là, nous sommes face à un jugement sévère. Cet homme qui n'a fait, rien fait avec ce que le maître lui donne, il perd même le peu qu'il avait et il finit en enfer. Quand on pense au retour du Christ, il faut être conscient qu'il y aura un jugement. À son retour, Jésus va juger le monde. Dieu est amour. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas juste. En effet, sa justice et son amour vont ensemble. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. L'injustice doit être jugée justement parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut pas tolérer l'injustice. Alors, faisons attention quand même. Parce que si nous lisons cette parabole sans le mettre en relation avec le reste de la Bible, nous pourrions avoir l'idée que Jésus va nous juger uniquement selon nos œuvres, que notre salut dépend de nos bonnes œuvres. Et c'est clair qu'en Apocalypse, il va y avoir un jugement où les œuvres sont jugées. Mais nous lisons également Éphésiens 2, 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Que Jésus veut-il dire dans cette parabole? Notons bien l'attitude du troisième serviteur. Quel est l'état, en fait, de son cœur? Seigneur, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Seigneur, tu es un homme dur. Et là, on voit le problème. Cet homme n'aimait pas son Seigneur. Il n'avait pas un cœur repentant. Parce que celui qui a le cœur repentant reconnaît que le Seigneur n'est pas un homme dur, mais un Dieu plein de grâce et de miséricorde pour que ceux qui se repentent. Chacun qui se repent prouve que Dieu l'accepte par sa grâce et par sa grâce seule, et que c'est un privilège de recevoir ce que, quoi que ce soit, de la part de ce Dieu. Parce que c'est plus qu'on mérite. Tout ce que nous recevons, c'est plus qu'on mérite. Ce n'est pas un homme dur qui donne à ceux qui ne le méritent pas. Et en plus, le fait que Dieu nous invite à participer à sa mission, c'est un privilège inouï. Alors que ce serviteur méprise son Seigneur et sa mission, il va même jusqu'à l'accuser. L'attitude de ce serviteur, c'est l'état de son cœur qui est le problème. Ce troisième serviteur, c'est la personne qui a entendu parler de Jésus, mais qui n'a pas accepté qui il est vraiment, qui n'a pas accepté son amour. C'est quelqu'un qui dirait peut-être même qu'il croit, mais qui n'a pas décidé de mettre sa foi entièrement en Jésus parce qu'il garde une fausse image de Dieu. Une fausse image de Dieu, l'image d'un Dieu dur. Et donc, cette personne ne peut pas chercher la gloire de Dieu parce qu'il n'aime pas ce Dieu. Et si je me dis, Dieu, il est dur, je ne l'aime pas, je ne vais pas travailler, je ne vais pas vivre pour sa gloire, je vais vivre pour ma gloire, pour me protéger comme ce serviteur. Ce serviteur ne veut pas que le maître profite du travail que lui, le serviteur, fait, alors qu'un serviteur qui aime son maître n'hésite pas à travailler pour lui sans rien recevoir en retour. Lorsque le maître répond à ce que le serviteur dit, notons bien, il répète ce que le serviteur dit. Je moissonne où je n'ai pas semé et je récolte où je n'ai pas planté. Mais il ne répète pas la première phrase. Tu es un homme dur. Parce qu'il n'est pas. Par contre, c'est vrai que dans un sens, Dieu moissonne ce que nous avons semé pour lui. Nous travaillons pour lui justement pour qu'il reçoive la gloire. Alors encore, en mettant ça en lien avec le reste de la Bible, nous savons que quand même Dieu est derrière tout. Que quand nous semons, c'est Jésus qui travaille à travers nous. Mais nous sommes appelés à travailler pour sa gloire et non pas la nôtre. Et cela, ça ne signifie pas qu'il est un Dieu dur. Au contraire, lorsque nous reconnaissons que nous sommes sauvés par sa grâce et non par nos œuvres, notre plus grande joie sera de travailler pour sa gloire, la gloire de celui qui nous a sauvés, parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Soyons donc clairs, le troisième serviteur n'est pas condamné à cause de ses mauvaises œuvres, à cause de ses échecs. Ses mauvaises œuvres sont plutôt les résultats de son attitude envers son Dieu, son manque de foi dans la grâce de Dieu. L'ironie, c'est tellement ironique. Parce que l'ironie est qu'en pensant que Dieu était dur, parce qu'il allait le juger selon ses œuvres, ce serviteur s'est privé précisément de la grâce qu'il aurait pu épargner de ce jugement. Alors, si vous avez du mal à donner votre vie à Dieu, à donner votre vie à Jésus complètement, je vous encourage à bien vous poser la question, quelle est mon attitude envers Dieu? Quelle est l'image que j'ai de son caractère? Et si vous trouvez que c'est celle d'un maître dur, et posez-vous cette question, même si vous êtes dans l'Église depuis longtemps, même si vous êtes croyant depuis longtemps, parce que malheureusement, on peut garder cette image de Dieu longtemps dans la vie. L'idée que Dieu est un Dieu éloigné et dur. Mais si c'est votre image de Dieu, je vous encourage à lire les Évangiles et découvrir qui il est vraiment, qui est cet homme qui guérit les malades, qui accueillit les enfants et les pécheurs. Selon ce passage, c'est vrai qu'il y aura un jugement à la fin, mais la condamnation ne sera que pour ceux qui ont refusé l'amour de ce Dieu qui est lui-même amour. Alors, pour ceux qui l'ont accepté, voici ce que nous lisons. Jésus dit au serviteur fidèle, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Les bons serviteurs reçoivent une récompense. Il y a trois parties en fait, trois parties de ce verset que nous allons regarder. Mais d'abord, notons que le maître dit exactement la même chose aux deux serviteurs. Les deux n'ont pas reçu la même chose et ils ne ramènent pas le même montant d'argent. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils ont répondu par la foi et ils ont utilisé ce que le maître leur avait donné. La Bible est pleine de versets qui nous disent de ne pas nous comparer aux autres, car ce n'est pas ça qui compte. C'est le fait de suivre le chemin que Dieu trace pour nous. Qui compte. Peu importe ce qu'il demande aux autres. Alors, regardons les récompenses. À la fin de la phrase, le maître invite le serviteur à partager sa joie. C'est-à-dire, viens participer avec moi à l'avenir merveilleux que j'ai préparé pour toi. Et non pas juste ça, mais sois dans la joie avec moi. Partout dans les évangiles et dans l'Apocalypse, Jésus parle de son retour comme un festin. À la fin, nous ferons la fête. Et lui, avec nous, vous en rendez compte, ce n'est pas juste nous qui allons faire la fête. Jésus va faire la fête avec nous. Nous, la, nous, nous allons le faire avec lui. Je ne sais pas pour vous, mais ça me donne envie. J'ai envie de voir Jésus faire la fête. J'ai eu le privilège ce week-end dernier d'être au mariage d'Eric et Sarah. Et on a eu d'autres mariages cette année. Et l'une des choses les plus joyeuses à un mariage, c'est de voir le couple en joie, voir la joie du couple. Parce qu'après tout les préparatifs, le travail, le stress, l'attente, ils sont soulagés, détendus, joyeux d'être ensemble, entourés de leurs proches. Et parfois, ils dansent. Moi, je ne danse pas trop, au moins pas en public. Mais j'aime voir les autres danser. Surtout à un mariage, parce que leur joie est tellement évidente. Je ne sais pas si Jésus va danser ou pas au festin à la fin. Peut-être. Mais nous, en tout cas, quoi qu'il arrive, nous serons invités à le rejoindre dans sa joie. C'est la première partie de la récompense. Mais vous savez aussi qu'après le mariage, après la fête, la vie continue. En tout cas, c'est comme ça ici sur Terre. Mais c'est intéressant de noter ce que le maître dit ici dans cette parabole. Parabole par rapport à ça. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Qu'est-ce que ça peut signifier si c'est la fin des temps? Et là, on parle bien de la fin. C'est le jugement dernier, c'est la fin. Il va nous confier quoi alors? Ben, d'abord, il faut reconnaître que la fin n'est qu'un début. La fin de la Bible n'est qu'un début. À la fin, il y aura le nouveau ciel, la nouvelle terre. En Apocalypse 5, 10, nous lisons que le peuple de Dieu seront les rois et les prêtres sur cette nouvelle terre. Et la Bible ne décrit pas cette nouvelle vie en détail, mais nous savons qu'il y aura des récompenses. On le lit en 1 Corinthiens 3, et nous savons qu'il y aura des responsabilités, d'autres occasions pour servir le Seigneur. Et dans le royaume de Dieu, les opportunités de servir le Seigneur, ce sont les récompenses. Qu'est-ce qu'on fera? On ne sait pas exactement. Mais si Dieu nous a mis sur terre en Genèse pour la cultiver, pour participer avec lui dans ce qu'il avait créé, il est tout à fait logique, je trouve, d'imaginer que nous participerons avec lui à cultiver la nouvelle création. Pourquoi pas? Mais encore, puisque la Bible ne nous donne pas les détails, ça reste un mystère. Mais un mystère qui donne envie. Une vie de service fidèle à Dieu sur cette terre aura ses conséquences sur la nouvelle terre. C'est la deuxième récompense. Mais pour terminer, il reste encore la première partie du verset. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas une phrase qui annonce une récompense, parce que la phrase elle-même est la récompense. Que Jésus nous dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Quelle récompense peut-on vouloir de plus? Nous avons tous envie, au fond de nous-mêmes, d'entendre de la part de quelqu'un, surtout quelqu'un que nous aimons, c'est bien, tu as bien fait. Toi, tu es un bon et fidèle. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Un bon ami, un bon enfant, un bon époux, un bon pasteur. Pense pour un instant à la personne qui, si elle te disait ça, tu serais complètement bouleversé, rempli de joie, soulagé, en larmes. En fait, ça peut faire mal de penser à ça parce que certains d'entre nous ne l'ont jamais entendu. Nos parents ne l'ont pas dit. Nous n'avons pas l'impression d'être vraiment appréciés par nos amis. Nous n'avons personne pour nous dire « C'est bien, tu as bien fait, tu es bon. » Et au fond de nous, nous savons que nous ne sommes pas bons. Au moins, pas aussi bons que nous voulons l'être. Et pourtant, si tu as mis ta foi en Christ, un jour, tu vas l'entendre. Ceux qui ont mis leur foi en Christ, ceux qui ont vraiment décidé de le suivre, non pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il est doux, un jour, nous l'entendrons. Nous arriverons peut-être à la fin de la vie fatigués. Peut-être, comme l'apôtre Paul, nous dirons, nous sommes abattus et nous sommes tristes. Et puis, nous verrons Jésus. Il nous regardera dans les yeux et nous entendrons, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Viens partager ma joie. Tu as souffert, mais maintenant on va danser. Dieu est un Dieu de grâce. Tout ce qu'il nous donne, tous ces sacs d'argent dans notre vie, il nous le donne par grâce. Chaque souffle, il nous donne par grâce, par amour, afin que nous multiplions cet amour, que nous multiplions cette grâce. C'est ça notre mission. En attendant notre roi, que nous multiplions sa grâce autour de nous. Un jour, il reviendra. Prions, prions qu'il nous trouve fidèles à cet appel. Prions avec moi.